J'ai le plaisir de vous montrer un livre que je viens de découvrir, qui est paru en 2024. Le titre, c'est « La lumière pour sonder le monde ». Dans mon bureau, j'ai deux chercheurs, ou enseignants-chercheurs.
Chercheurs.
Nous allons donc parler du livre, et on va commencer par parler des auteurs. Qui sont-ils ?
Eh bien, je suis donc Vincent Boudon, je suis directeur de recherche au CNRS à Dijon, laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, et je dirige une équipe de spectroscopie moléculaire.
Alors moi, je suis Cyril Richard, ingénieur de recherche, et dans le même laboratoire, et pour tout dire, même dans la même équipe. Je travaille en étroite collaboration avec Vincent, on fait donc de la spectroscopie moléculaire sur des petites molécules qui ont généralement un intérêt astrophysique.
On commence par le premier mot du titre du livre, on commence par le mot lumière. Alors la lumière, c'est vieux comme concept, la lumière, on a besoin de le réceptionner, donc le premier récepteur, ou un des premiers récepteurs de la lumière, que l'homme s'est rendu compte, ou l'homme a utilisé, il semble que c'est quelque chose dans le corps humain.
Oui, c'est l'œil.
Oui, c'est exactement, c'est ça, c'est l'œil, le premier récepteur. Alors, il n'est pas propre à l'homme d'ailleurs, hein. Tous les animaux en ont un, et effectivement, alors ça a commencé par quelque chose de très basique, hein, qui détectait juste des changements de luminosité jusqu'à l'œil qu'on connaît aujourd'hui.
Qui a évolué. Et le premier connu, en tout cas, à avoir décrit et expliqué le fonctionnement de l'œil d'une manière correcte, c'est un scientifique arabe, Al-Hazen, en 1015, dans son traité d'optique.
Dans votre livre, vous parlez de cette personne-là ?
Oui, on refait au début toute l'historique de la connaissance de la lumière et on a tout un paragraphe consacré à Al-Hazen.
Sur le billet d'Irak, c'est ça ?
Oui.
Il a même son image.
Il a eu un billet à son effigie et puis plein d'autres dommages. On en avait beaucoup parlé en 2015 pour justement le millénaire de son traité.
Dans quelle page vous parlez de ça ?
Alors on parle de ça dans le premier chapitre, autour des pages 17-18.
Voilà. Le sous-titre du livre, c'est « La spectroscopie et ses applications ». Le mot spectroscopie, est-ce que vous pouvez dire deux ou trois mots ? Est-ce qu'il y a une image ? Comment est-ce qu'on a su ? Est-ce que c'est la couleur ?
Alors oui, c'est la couleur. On dit souvent que le premier qui a créé un peu la spectroscopie, c'est Isaac Newton, parce qu'il a compris la décomposition de la lumière. Mais pour ce qui nous concerne, c'est en plus de regarder les informations qui sont contenues dans cette lumière. Et ça, c'est grâce à
Joseph von Fraunhofer,
voilà.
Un Allemand qui a découvert qu'en fait, quelque chose que Newton n'avait pas vu, on ne peut pas dire qu'il l'avait loupé parce qu'il n'utilisait pas le même matériel que ce fameux von Fraunhofer. Mais en fait, il a découvert dans le spectre, donc dans l'arc-en-ciel créé quand on disperse la lumière, il a découvert des bandes sombres, des bandes verticales sombres. Et en fait, il s'avère que chaque bande sombre, elle est associée à un élément chimique qui va se trouver, alors, soit à la surface du Soleil, soit dans notre atmosphère, parce que effectivement, nous observons, nous, à partir de la Terre, et donc, ces rayons lumineux, ces messagers universels, traversent à la fois l'atmosphère du Soleil et à la fois l'atmosphère de la Terre. Et donc, on retrouve leur empreinte dans le spectre du Soleil. Et donc, la spectroscopie, c'est ça, c'est l'étude de la lumière.
Et je vois l'image, il y a des couleurs là, donc ça c'est le spectre en provenance du Soleil.
Oui.
Et la bande sombre dont vous parlez, est-ce que ce sont bien des traits noirs qu'on voit ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors on est en train de parler d'une image, page 34 du livre, pour le citer, qui est un timbre allemand qui rendait hommage à Fraunhofer.
Le nom, c'est qui ça ? Répétez encore une fois.
C'est ce qu'on disait avant, Joseph von Fraunhofer, qui est...
Joseph von Fraunhofer, oui, c'est difficile, il faut avoir fait un peu d'allemand pour...
Oui, tu fais moyen, mais bon. Et donc, on voit ces traits sombres qui vont s'avérer essentiels pour l'analyse de la lumière et de la matière à distance grâce à la lumière.
En feuilletant le livre, je vois un dessin qui illustre les niveaux d'énergie dans le matériau, hein, dans une molécule, en relation avec les bandes sombres qu'on vient de parler. À l'époque où j'étais étudiante, c'était pas évident la notion de l'énergie quantique on associait au niveau d'énergie, et j'ai mis longtemps à me rendre compte que ce n'est pas le niveau d'énergie même qu'on voit dans les spectres, mais la différence. Ça aurait été très bien si j'ai vu un dessin à l'époque.
On parle de la page 64, mais effectivement, on a voulu apporter un soin particulier à l'illustration dans le livre et à bien expliquer des concepts qui ne sont pas toujours justement faciles. Et là, c'est effectivement relié à la compréhension de ce qu'avait fait von Fraunhofer, mais qui a dû attendre l'avènement de la physique quantique. Et donc là, on a pu montrer plus tard que l'énergie des atomes, par exemple, ou des molécules, prend des valeurs spécifiques qui créent donc des niveaux d'énergie. Mais on n'observe pas l'énergie en absolu, on observe des différences quand le système passe d'un niveau d'énergie à un autre.
Et donc en fait, quand tout à l'heure on parlait d'absorption, quand il y a une absorption, c'est qu'on va avoir un grain de lumière, un photon, qui va être absorbé par un atome, une molécule, n'importe. Et quand on absorbe de la lumière, on absorbe de l'énergie. Et cette énergie, en fait, eh bien, elle va être transmise à l'atome ou à la molécule et qui va monter en énergie, en fait. Il va y avoir un transfert. Et donc, du coup, ce transfert, cette transition d'un niveau d'énergie plus bas à un niveau d'énergie plus élevé, eh bien, c'est ça qu'on observe. C'est ces fameuses traînées sombres qu'on a dans le spectre, c'est ces transitions. On peut appeler ça aussi une transition. Voilà. Alors, on veut faire aussi une petite aparté, donc en expliquant qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître un peu plus techniques. On veut absolument pas faire peur au lecteur, et je pense que Vincent est d'accord avec moi quand je dirais que si des passages peuvent apparaître plus compliqués, il n'y a aucun mal à les sauter, à revenir après, mais ou à le sauter dans un premier temps et à continuer la lecture. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça.
Tout à fait.
Le deuxième mot dans le titre, c'est « sonder ». Le verbe « sonder », ça nous intéresse surtout aux gens qui font de la recherche, de sonder quelque chose avec la lumière. Il doit avoir des techniques différentes.
Oui, alors il y en a beaucoup. C'est ce que détaille notre chapitre 3 qui peut-être paraître des fois un peu technique, mais on a voulu montrer tout ce qui se fait aujourd'hui. Ça rejoint ce qu'on disait avant. Donc il faut un capteur, un détecteur. On va aller au-delà de l'œil. On va avoir des capteurs électroniques maintenant. Et puis différentes sources de lumière et qu'on va pouvoir analyser. Alors il y a plein d'exemples de techniques possibles aujourd'hui.
En fait, il y a plein de techniques différentes, mais c'est vrai que l'essentiel reste de disperser la lumière. Alors, Newton utilisait un prisme pour disperser la lumière. Joseph von Fraunhofer, lui, utilisait un réseau. Le réseau, c'est quelque chose maintenant d'énormément utilisé pour nos étudiants, justement. Dans les salles de TP, on utilise des réseaux et ça va disperser la lumière. Mais le but étant toujours d'observer du coup cette lumière qui est décomposée. Alors nous maintenant en recherche, on va utiliser tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire toute la gamme de couleurs visibles ou invisibles pour étudier la matière. Donc on va très bien pouvoir faire de la spectroscopie en visible avec des lasers d'une couleur visible. D'ailleurs, on a des jolies images dans le livre où on voit des jolis verres de laser. Ou aussi, on va pouvoir aller dans des longueurs d'onde qui nous parlent beaucoup plus avec Vincent. Par exemple, l'infrarouge. L'infrarouge qui est une lumière qu'on est incapable de voir à l'œil nu, mais qui permet également de sonder la matière dans des endroits différents de ce que permettrait la lumière visible. Par exemple, l'infrarouge, c'est une lumière qui passe au travers des poussières stellaires. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde le ciel en infrarouge, on est capable de voir derrière des nuages de poussière. Là où, en lumière visible, on voit juste un nuage de poussière qui nous empêche de voir plus loin.
Voilà, et puis évidemment, on peut aller dans tous les autres domaines qui ne sont pas forcément ceux où on travaille nous, mais il y a l'ultraviolet, il y a les rayons X, il y a les rayons de radio, les rayons gamma. Et pour ça, comme on venait de dire, il y a plein de techniques. Alors, je vais juste en mentionner une que je ne vais pas expliquer en détail, mais parce qu'elle fait référence à un scientifique fameux et qu'on connaît bien en Bourgogne, c'est Joseph Fourier. Puisqu'il y a un moyen plus complexe de décomposer la lumière, qui est ce qu'on appelle la transformée de Fourier, et qui est due à l'Auxerrois Joseph Fourier.
Oui, et donc vous avez parlé de transformée de Fourier, de laser, et est-ce qu'il y en a d'autres encore, d'autres
techniques ? Alors oui, alors il y a pas mal de techniques qui utilisent les lasers, comme la technique Raman, qui est une technique de diffusion de la lumière. Il y a plein de choses qui impliquent de l'électronique en général. Tout ça implique plein de dispositifs électroniques, des détecteurs, des sources différentes. Alors, on parle en France, on a un gros instrument qui s'appelle le synchrotron soleil qui est sur le plateau de Saclay, qui est en fait, pour faire simple, une source de lumière dans toutes les longueurs d'onde qui permet de faire plein d'expériences sur la matière.
En fait, c'est un endroit où on se rend de temps en temps avec Vincent, et c'est vrai que cet appareil, c'est un accélérateur de particules. Alors, je pense que le grand public connaît énormément, a déjà entendu parler des accélérateurs de particules, mais pas pour la même raison. Un accélérateur de particules, les gens le connaissent, on fait accélérer des particules, puis elles se collisionnent entre elles. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on fait accélérer des particules, mais pour générer un rayonnement, le rayonnement synchrotron. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi ce rayonnement est créé, mais en gros, il est intéressant ce rayonnement parce qu'il est dans toute la gamme du spectre électromagnétique, ce qui fait qu'un synchrotron permet de créer une lumière très très diverse et variée. Et donc, si on a envie de faire de l'infrarouge lointain, on peut le faire avec un synchrotron. Si on a envie, de faire des rayons X, on peut le faire avec un synchrotron. Si on a envie de faire dans l'UV, on le fait avec le synchrotron. Donc voilà, et ça permet d'avoir un rayonnement très très intense et donc de vraiment bien sonder correctement la matière.
Et puis finalement, toutes ces techniques, tous ces détecteurs, toutes ces électroniques, ces lasers, ils peuvent être, on dit, embarqués dans des engins spatiaux qui vont observer la Terre depuis l'espace ou carrément sur d'autres planètes pour aller sonder la matière ailleurs dans l'univers.
Super! Alors, comme résultat de ce sondage du monde, il y a plusieurs images qui peuvent illustrer. Hein, donc, vous pourriez nous indiquer un peu les pages dans lesquelles où il y a des résultats donc très, très probants.
Oui, alors effectivement, il y en a beaucoup. Il y a des choses que moi j'aime bien, Cyril pourra dire après. Dans les choses récentes, par exemple, on a entendu parler du télescope spatial James Webb, qui est un nouveau grand télescope spatial qui est en orbite depuis 2021 et qui fait donc des spectres, c'est-à-dire qui décompose la lumière des astres et il observe ces fameuses raies spectrales dont on parlait dans différents astres pour mesurer leur composition. Je peux citer une figure très récente, par exemple page 126, où on a un très beau spectre avec plein de pics d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui est autour d'une autre étoile. Il faut savoir qu'on connaît des planètes autour des autres étoiles depuis 1995 seulement, et maintenant on a là des données précises qui nous disent que je vois qu'il y a du monoxyde de carbone, qu'il y a du méthane, qu'il y a des silicates. Donc on commence sur ces planètes super lointaines à mesurer leur composition comme ça. Donc voilà un exemple que je citerai.
Alors, le James Webb, lui, travaille en infrarouge, hein, comme on disait. Un autre exemple, moi, qui me vient en tête, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à faire dans mes recherches aussi, c'est le micro-ondes, la lumière micro-ondes. Donc, la même lumière qu'on retrouve dans nos fours micro-ondes, hein, celle qui va exciter les molécules d'eau et réchauffer notre plat. Eh bien, en lumière micro-ondes, on va sonder, pareil, l'univers, le milieu interstellaire, ce qu'on appelle, et on va découvrir énormément de molécules, plus de 200 molécules qui ont été découvertes dans ce milieu interstellaire. Et en fait, ces molécules, pourquoi c'est intéressant de les retrouver? Eh bien, parce que ces molécules qui sont des assemblages d'atomes de plus en plus complexes, on arrive à trouver des molécules de plus en plus complexes dans le milieu interstellaire, eh bien, c'est des briques du vivant. C'est-à-dire que nous, on est fait de molécules, de grosses molécules. La plus grosse molécule connue, enfin très connue dans notre corps, c'est l'ADN. L'ADN, il est constitué d'acides aminés. Ces acides aminés, justement, on commence à les retrouver dans les astéroïdes, dans les comètes. Et si on va encore plus bas, on a des petites molécules de 4, 5, 7, voire 10 atomes. Eh bien, ces molécules-là, qui sont des molécules organiques complexes, comme on dit, eh bien, on est capable de les trouver dans le milieu interstellaire. On les retrouve dans la formation d'étoiles, ce qu'on appelle des proto-étoiles. On va les retrouver également dans des nébuleuses planétaires. Alors, contrairement à ce que leur nom indique, ce n'est pas des nébuleuses de planètes, mais ce sont des résidus d'étoiles, d'explosions d'étoiles. Et bien voilà, dans tous ces endroits de l'univers, on est capable de trouver ces molécules organiques complexes. Donc en fait, et bien, on peut imaginer que les ingrédients, que ces briques élémentaires de la vie, ne se trouvent pas que dans notre région de la Terre, mais un petit peu partout, c'est ensemencé un petit peu partout dans l'univers.
Effectivement, on peut illustrer ça par ce que tu viens de dire, par exemple, poche 122, et on a un spectre du satellite Herschel dans les micro-ondes qui montre toutes les molécules qu'on peut voir, enfin quelques exemples de molécules qu'on peut voir dans le milieu interstellaire.
Waouh ! Alors, donc, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est très intéressant ce livre, c'est parce que, en fait, ça convient aussi pour les spécialistes. Hein, quand on est chercheur même, on travaille sur un, deux, oh, pas beaucoup, mais quelques domaines un maximum. Et donc, ça, ce livre-là, ça donne un spectre, on peut dire que ça.
Oui, justement.
De l'utilisation de la technique de spectroscopique et des résultats dans différents domaines.
C'est un peu l'idée, effectivement. Déjà, ce livre, on l'a écrit à quatre. Et tous les quatre, même si moi, avec Vincent, on est dans le même domaine, nos deux autres co-auteurs sont dans des domaines différents. Et donc, justement, chacun a apporté, quelque part, son expérience. Et aussi, on a essayé de faire ça un peu scientifiquement en sourçant tout ce qu'on montre, tout ce dont on parle. Et donc, des fois, on va sourcer aussi des articles scientifiques pour, justement, effectivement, que ce livre puisse intéresser également les chercheurs qui ont envie d'en apprendre un peu plus, parce que nos collègues, nous avons beaucoup de collègues chercheurs qui, je pense, seraient bien incapables de dire ce que nous faisons dans la recherche, et la réciproque est vraie.
Oui.
Et donc, il y a bien une bibliographie à la fin ?
Il y a une bibliographie, c'est complète, je pense. En tout cas, tout ce qu'on cite, tous les travaux sont référencés, on peut retrouver tout ça à la fin, oui.
Tout à l'heure, on a dit que ce livre semble très intéressant pour les étudiants, pour les scientifiques, les chercheurs dans leur domaine spécialisé. Moi, je me pose la question, est-ce que le livre intéresserait également pour des gens qui ne travaillent pas dans le domaine scientifique ?
Oui, tout à fait. Je pense que la première raison, ça peut être de la curiosité de savoir aujourd'hui comment on fait pour analyser la matière, etc., même sans être scientifique, comment on connaît telle ou telle chose. On parlait tout à l'heure du milieu interstellaire ou des planètes, on nous dit qu'il y a ça ou ça dedans, comment on le sait. Et on peut avoir des choses plus proches de nous. On a détaillé aussi des applications dans l'industrie ou dans l'art, par exemple.
Et dans quelle page ? Vous avez une image ?
Alors, page 158, vous pourrez être surpris dans un livre sur ce thème, La Joconde.
Attendez, La Joconde ?
De Léonard de Vinci, oui.
Waouh !
Voilà. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais le Louvre apprécierait très moyennement qu'on décide de gratter la peinture pour en apprendre plus. Et donc, il s'est équipé d'un laboratoire très performant. Ils ont même un accélérateur de particules. Et ce qui permet de développer des méthodes qui sont non-invasives pour étudier le tableau du maître et donc mieux connaître ses techniques de peinture, tout simplement. Ouais. On parle de la Joconde, mais ça concerne énormément de peintures. D'ailleurs, pour la petite histoire, si on met la Joconde, c'est que nous avons réussi à trouver une photo libre de droit, ce qui n'était pas forcément facile pour toutes les peintures, l'art étant très très protégé.
Au début, on avait choisi une autre toile de Léonard, mais qui n'était pas libre de droit. Donc, on n'a pas pu la mettre. Mais en tout cas, ces techniques permettent, par exemple, de retrouver quel pigment Léonard a utilisé, sans abîmer le tableau, heureusement.
Ça fait partie des applications, donc
Oui.
dans les sondages, disons, non destructifs.
Voilà. Mais
Exactement,
les
c'est le thème.
applications restent nombreuses quand même, cependant,
Oui.
c'est une des
Sondage non
applications.
destructif. Alors, on pourra en citer plein d'autres. Il y a la détection d'explosifs, des applications dans le nucléaire et plein, plein d'autres choses dans le médical aussi. Pour simplement en analysant l'air exhalé par des patients, en analysant les molécules avec la spectroscopie, détecter des pathologies, etc.
Pour le grand public, même pour un enfant, est-ce qu'il a l'intérêt à feuilleter un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux dans votre livre?
Oui, alors il y a plein de choses qui peuvent être vues. Bon, il y a toutes les illustrations. Et puis on a tenu à faire une annexe à la fin sur des petites choses qu'on peut faire soi-même un petit peu. On peut construire un petit spectroscope avec un prisme ou un réseau qui se trouve dans le commerce pour quelques euros. On peut faire le sténopé aussi dont on parlait, enfin on n'a pas parlé, mais qui avait été aussi décrit par Alhazen. Et puis, on a mis une expérience un petit peu rigolote. Alors, c'est pas la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, parce qu'il ne faut pas mettre de papier d'alu dans le micro-ondes, mais on peut mettre du chocolat dans un four micro-ondes et observer l'effet des ondes micro-ondes dans le four sur le chocolat.
Oui, c'est assez marrant. Alors, nous, dans le livre, on l'a illustré avec des photos et également des photos prises avec un appareil photo infrarouge, ce qui permet de mieux voir. Mais on peut, sans appareil photo infrarouge, quand même admirer cette onde qu'on appelle onde stationnaire qui se marque sur le chocolat. Cette annexe, on a aussi essayé d'expliquer des petites choses du quotidien et notamment l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dont on pensait connaître plein de choses sur l'arc-en-ciel et qui se sont avérées en fait assez inexactes. Et en potassant le sujet, on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas l'arc-en-ciel et on l'a compris en l'écrivant. Donc on a essayé de le retransmettre parce que l'arc-en-ciel, c'est quelque chose on a l'habitude, hein, il faut du soleil, il faut de la pluie, et puis oh, on a un bel arc-en-ciel. Bah, c'est un poil plus complexe que ça et je pense qu'on a, j'espère surtout, qu'on a réussi à retranscrire vraiment ce qui se passe dans un arc-en-ciel, le mécanisme qui se passe dans un arc-en-ciel et qui est vraiment assez singulier et intéressant.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant quand finalement, quand on fait un livre comme ça, disons de vulgarisation, parce qu'on se rend compte qu'il y a des concepts qu'on pense évidents, et quand on veut vraiment les expliquer, qu'on creuse un peu, qu'on tire sur la ficelle, eh ben, ça devient, et ça peut nous emmener assez loin. Et pour bien l'expliquer, ben, c'est pas toujours si facile. Donc, on espère qu'on a réussi.
Écrire un livre comme ça, non seulement ça aide les autres, ça aide aussi les chercheurs eux-mêmes, hein, c'est
Oui,
ça?
et les auteurs eux-mêmes.
Les auteurs eux-mêmes,
Exactement.
voilà.